gracias, mano.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
My God's name is Money.
Bonjour à tous. Ces dernières semaines, la jeunesse de Serbie est descendue dans la rue pour dénoncer la dérive autoritaire du Premier ministre élu président Aleksandar Vučić. Mais cette révolte, c'est aussi le cri d'une génération qui n'a connu que le chômage et la précarité. Sa bande son, c'est la version locale de la trap, ce nouveau rap trash inventé au début des années 2000 par les noirs des ghettos de la Sunbelt. En Serbie, le reportage de Simon Rico.
Basse lourde, nappe de synthétiseur tout droit sorti de la dance des 90s, flow entêtant qui vient frapper au fond du beat. Bienvenue dans la trap, ce courant musical qui s'est échappé des quartiers pauvres du sud des États-Unis pour conquérir la planète. Chez les jeunes Serbes, ce nouveau genre de hip-hop rencontre un succès fulgurant, avec le sentiment de partager le même destin que leurs modèles américains, celui de la marginalisation et de l'enfermement dans un ghetto. Le MC Daki BD a fondé Bombay DVD Setir, les bombes des années 90, le principal collectif de trap local.
On a donné une place à chaque pays dans la distribution mondiale du marché du travail. Et nous, on a eu le droit à celle de chômeurs et d'esclaves du capital mondial. Ici, en Europe de l'Est, ce sont des pays entiers qui sont devenus des ghettos. C'est comme ça depuis la fin de la Yougoslavie. La situation actuelle, cela fait 25 ou 26 ans qu'elle dure.
En Serbie, la trap est un mouvement très jeune, la plupart des fans et des rappeurs n'ont qu'une vingtaine d'années. La majorité d'entre eux n'a donc connu que l'interminable transition qui a suivi l'implosion sanglante de la Yougoslavie, c'est-à-dire les années d'embargo international pendant la guerre, puis le chômage et la précarité. Cette première génération post-socialisme a le sentiment qu'on lui a confisqué son avenir, comme le rappelle le sociologue Dragan Stanojević.
Il y a une vraie différence entre ces jeunes et la génération de leurs parents. Leurs parents ont grandi avec l'idée que quand ils auraient fini leurs études, ils allaient vite trouver un emploi et éventuellement fonder une famille. La génération d'aujourd'hui n'a même pas eu l'idée qu'elle puisse avoir un emploi stable. Ils vivent donc beaucoup plus au présent.
La trap serbe incarne le désenchantement de cette génération privée de perspective. Dans leurs textes, les rappeurs évoquent avant tout leur quotidien fait de galères, de débrouilles et d'oisivetés subies. Avec un sujet de prédilection, la défonce, que ce soit à l'herbe, à la cocaïne ou aux amphétamines. Au point que certains en ont même fait leur nom de scène, comme l'explique le rappeur Gudroslav.
Mon nom me représente bien. Je suis quelqu'un qui aime se droguer. Et Gudra, ça veut dire drogue en verlan. En plus, ça a une sonorité serbe. En Serbie, les noms se terminent souvent par slave. Gudroslav, c'est une sorte de mélange de tout ça.
Dans cet univers très masculin, c'est pourtant une femme qui tient la vedette. Ancienne stripteaseuse, Mimi Mercedes est devenue un véritable phénomène. Chacun de ses clips compte plusieurs millions de vues sur YouTube. Avec ses tenues ultra sexy et ses accessoires bling bling, la rappeuse n'a pas vraiment le profil d'une militante féministe. Elle se bat pourtant pour l'égalité de traitement avec les mecs et en appelle même à la lutte des classes pour en finir avec le capitalisme.
Ce n'est pas par amour pour la musique que j'ai commencé à faire du hip-hop. Au contraire, c'est parce que je veux faire entendre les choses dont on ne parle pas assez. En tout cas, dont personne ne parle comme moi je le fais. Et surtout pour motiver les filles à prendre la parole. Même celles qui ne sont pas d'accord avec moi, je veux les inciter à dire haut et fort pourquoi elles ne sont pas d'accord. Je veux les voir réagir.
Ako si ti, šta možeš u životu?
na glade u stomaku, publika u šoku, a reperi u bedaku.
La référence du mouvement trap serbe, ce sont les années 1990, une décennie pourtant noire dans les Balkans. Cette réappropriation ressemble à un pied de nez, comme pour dire que finalement, depuis, rien n'a changé. Ces rappeurs réhabilitent donc les codes du trash de l'époque, quand la Serbie autoritaire de Slobodan Milošević était dominée par le crime organisé et son esthétique mêlant survette, chaînes en or et grosses berlines. C'est ce qu'explique Daki.
On peut dire que nous incarnons la seconde vague de cette mode qu'on appelle diesel. Les gens se sont calmés, on n'est plus dans la vague de criminalité des années 90. Aujourd'hui, cette culture est devenue une sous-culture de jeunes qui n'a pas grand-chose à voir avec les règlements de compte dans la rue. Et tant mieux, parce que, à cette époque, ils sont nombreux à être morts dans la rue. C'était une vraie guerre démographique.
Sans repère ni avenir, la jeunesse serbe se délecte aujourd'hui de cette trappe qui traduit son état d'esprit punk 2.0 entre Carpe Diem et No Future. L'hédonisme, ces rappeurs l'ont même érigé en revendication politique comme une évidence, vu que l'ascenseur social s'est bloqué en Serbie avant même leur naissance. Pour eux, la seule chance de s'en sortir, c'est l'exil, mais pour le moment, la trappe est bel et bien fermée.
Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume.
Les nombreux ponts du mois de mai en France ne sont rien au regard des jours fériés en Bulgarie. Cette année, suite à une réforme, les Bulgares bénéficient au total de 117 jours de congés, jours fériés et vacances confondus. Évidemment, Damien Vodeničarov, les patrons ne sont pas contents.
Jamais dans l'histoire du pays, les Bulgares n'auront aussi peu travaillé qu'en 2017. C'est du moins l'analyse de l'Association du Capital Industriel. Cette organisation patronale se plaint d'un nombre de jours de congés beaucoup trop important. Il y en aura en tout 117 jusqu'à la fin de l'année pour 248 jours de travail, ce qui fait plus d'un tiers de l'année passée sans travailler. Calculatrice en main, le patronat a fait ses comptes. Le manque à gagner pourrait atteindre 500 millions d'euros sur le long terme. Entre 1% et 1,5% du PIB pourrait être sacrifié chaque année. Cette hémorragie de recettes, on la doit à un amendement au Code du travail voté en fin d'année dernière. Auparavant, les employés devaient travailler les samedis pour compenser les jours fériés qui tombaient en semaine. Désormais, ce sont les employeurs qui doivent compenser leurs employés si les jours fériés tombent un week-end. Avec le nouveau système, la fête de la libération du 3 mars a ainsi duré 3 jours, de même que le 1er mai ou Pâques. Voilà pour la théorie, la réalité est bien différente. Plus de la moitié des entreprises membres de l'Association du Capital Industriel a travaillé le 1er mai. Plus de 60% se disent par contre en difficulté pour respecter la loi et rémunérer le travail en jours fériés ou les heures supplémentaires.
Ja, dames en heren van Leefbaar Nederland.
Aux Pays-Bas, 15 ans après son assassinat, l'ombre du populiste Pim Fortuyn plane toujours sur le pays. Le leader populiste avait été abattu en pleine ascension. Désormais, plusieurs courants politiques se disputent son héritage et ses fans, eux, pleurent toujours celui en qui ils voyaient un héros. Le reportage à Rotterdam d'Antoine Moutot.
Un vieux chanteur populaire à la voix de crooner fait son entrée sur le podium. Dans le public, les drapeaux néerlandais commencent à s'agiter. Des centaines de personnes sont réunies autour de la statue de Pim Fortuyn sur la place du même nom à Rotterdam. Sian, 72 ans, est très ému.
C'était très important de venir car il y a 15 ans, Pim Fortuyn a été assassiné. Cet homme était sur le point de changer la politique, donc de changer les Pays-Bas. Mais il a été tué.
Beaucoup ici se souviennent encore exactement de ce qu'il faisait à l'heure à laquelle le dirigeant politique Pim Fortuyn a été assassiné. Maria, 77 ans, était en vacances en Grèce avec son mari.
À ce moment-là, nous n'avions pas encore de téléphone portable. Mais quelqu'un qui était en vacances avec nous, lui, il en avait un. Et à 18h15, il savait déjà que Pim Fortuyn avait été assassiné. Vous savez, je l'avais pressenti. Les autorités ne l'ont pas assez protégé. Et voilà, c'est arrivé.
Le 6 mai 2002, peu après 18h, Pim Fortuyn quitte les studios d'une station de radio dans le Mediapark d'Hilversum, près d'Amsterdam. Sur le parking, un homme lui tire dessus avant de prendre la fuite. Pim Fortuyn meurt peu après. Son assassin, un ancien militant de la cause environnementale, sera arrêté le soir même. Il reprochait notamment à Pim Fortuyn de se servir des demandeurs d'asile et des musulmans comme bouc émissaire. Tatiana, 54 ans, se souvient très bien.
J'étais assise dans un café-restaurant lorsque j'ai entendu la nouvelle. Je m'en rappelle comme si c'était hier. J'ai été très choquée. C'était un homme très critiqué, c'est vrai, mais bon, nous vivons dans un pays libre avec une très grande liberté d'expression. Et quand quelqu'un se fait clouer le bec de cette façon, il y a de quoi avoir peur.
Daniel, le fils de Tatiana, est là lui aussi. À l'époque, il n'avait que 2 ans. Il ne partage pas les idées de Pim Fortuyn, mais il admire quand même le personnage.
D'après ce que j'ai compris des cours d'histoire à l'école, les débats politiques dans notre pays ont toujours été très policés. Et Pim Fortuyn a mis fin à tout ça. Je ne suis pas d'accord avec son idéologie, mais j'ai beaucoup de respect pour lui, car il osait l'ouvrir, dire ce qu'il avait envie de dire.
Tom, 21 ans, était lui aussi trop jeune pour se souvenir. Mais comme beaucoup de sympathisants de partis populistes et d'extrême droite présents ici, il voit en Pim Fortuyn le dirigeant idéal.
Pim Fortuyn était un très grand homme qui aurait pu complètement changer les Pays-Bas. Notre pays se trouvait alors confronté, comme aujourd'hui d'ailleurs, à une grande crise migratoire. Et depuis, nous n'avons plus jamais eu un dirigeant pareil. C'est vraiment dommage qu'il ait été tué. Un leader comme lui me manque.
Un leader comme lui, certains aux Pays-Bas aimeraient beaucoup le devenir. Après la cérémonie, les héritiers et proches politiques de Pim Fortuyn rejoignent la Srilandshuis, un somptueux bâtiment qui jouxte la place Pim Fortuyn. À l'intérieur, une petite réception entre personnalités d'extrême droite. Joost Ertmans est l'un d'entre eux. Au début des années 2000, il était député pour la liste Pim Fortuyn.
J'étais au Parlement pour lui, et s'il n'avait pas été abattu, j'en suis convaincu, il aurait été Premier ministre. Je pense qu'il aurait mis un frein au problème d'immigration et d'intégration auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
Pim Fortuyn a percé très tardivement en politique. Ce n'est qu'en mars 2002, 2 mois avant sa mort, qu'il enregistre son premier grand succès électoral à Rotterdam. Son parti local rafle 17 des 45 sièges du conseil municipal. Jusque-là, l'homme était surtout connu comme un intellectuel à la longue carrière académique. Et rapidement, des sondages le créditent de 17% des intentions de vote pour les législatives du 15 mai 2002. Aujourd'hui, 15 ans après sa mort, 2 courants principaux se disputent l'identité de Pim Fortuyn. À commencer par l'extrême droite du Parti pour la liberté de Geert Wilders, deuxième parti au Parlement. Martin Bosma en est l'une des figures principales.
Personne ne peut vraiment remplacer Pim Fortuyn. Il était unique dans ses idées et sa personnalité. Mais je pense que nous sommes tous un peu des Pim Fortuyn et nous devons nous montrer reconnaissants envers lui.
L'autre mouvement à se disputer l'héritage de Pim Fortuyn, c'est celui de Thierry Baudet, chef du nouveau parti Forum pour la démocratie. Parti de rien, sa formation néoconservatrice et europhobe a obtenu 2 sièges lors des législatives de mars dernier.
Pim Fortuyn a été un grand exemple, une source d'inspiration. Je l'admire, je regrette sa mort et j'espère réaliser en politique quelque chose que lui, il avait aussi voulu.
Pour de nombreux fans de Pim Fortuyn, Thierry Baudet incarne plus la bourgeoisie intellectuelle de Pim Fortuyn que Geert Wilders. Mais selon l'historien Clemens van Herwarden, auteur du livre « L'amour d'un leader », le charisme de Pim Fortuyn va bien au-delà de celui de n'importe quelle figure politique néerlandaise. Il a étudié des courriers de fans d'avant et d'après sa mort.
Dans mes recherches, je me suis rendu compte que des gens se sont, avant même sa mort, forgé une image charismatique de Pim Fortuyn. Même avant son assassinat, ses sympathisants le décrivaient déjà comme un héros, sauveur et prophète.
Pour Clemens van Herwarden, l'énorme empreinte de Pim Fortuyn 15 ans après sa mort est loin d'être surprenante.
La politique d'identité nationaliste de Pim Fortuyn trouve aujourd'hui encore beaucoup d'écho avec les derniers développements, les attentats, le nombre important de réfugiés de guerre de Syrie, mais aussi avec les problèmes au sein de l'Union européenne.
15 ans après son assassinat, Pim Fortuyn n'est donc pas vraiment mort. En tout cas, ses héritiers politiques chamboulent toujours la scène politique. Le parti d'extrême droite de Geert Wilders est arrivé 2e aux législatives de mars dernier. Mais presque personne ne veut gouverner avec lui. Et 64 jours après le scrutin, les Pays-Bas sont toujours sans gouvernement.
En France, la nomination d'Édouard Philippe au poste de Premier ministre veut sonner le glas de la traditionnelle dichotomie droite-gauche. Qu'en est-il chez nos voisins européens? C'est ce que nous allons voir avec Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Laurent.
Alors Daniel, est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison de la gauche et de la droite en France?
Si sa formation Les Républicains En Marche remporte la majorité absolue aux prochaines législatives, on pourra l'affirmer puisque ni la gauche ni la droite ne pourront prétendre gouverner le pays comme elles le faisaient alternativement depuis 1962. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ces notions gauche-droite sont obsolètes puisque l'éventuelle future majorité Macron comportera des éléments venus de la droite, du centre et de la gauche.
Chez nos voisins, est-ce que le clivage droite-gauche reste d'actualité, Daniel ?
Il reste parfaitement en place dans deux pays, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Mais outre-Rhin, nous y reviendrons, la grande coalition en place depuis 2013 entre chrétiens démocrates de la CDU, CSU et sociaux-démocrates du SPD a rapproché les lignes des deux grands partis de gouvernement. Dans le même temps, des forces plus extrêmes, Die Linke à gauche et Alternative für Deutschland à droite, se sont renforcées. Au Royaume-Uni, au contraire, conservateurs et travaillistes un temps rapprochés par la grâce du New Labour de Tony Blair ont rarement était aussi antagoniste. En Italie, l'opposition droite-gauche n'a qu'un quart de siècle car elle n'est apparue qu'avec l'explosion de la démocratie chrétienne et l'avènement de la droite berlusconienne. Le paysage s'est modifié depuis 3 ans avec à gauche le net recentrage du Parti démocratique et la droitisation de Forza Italia en dépit de la montée des populistes du mouvement 5 étoiles. Enfin, en Espagne aussi, la droite libérale conservatrice de Mariano Rajoy et les socialistes du PSOE n'ont guère changé de positionnement. Ils sont affaiblis par l'émergence au centre-droit du parti Ciudadanos et à la gauche de la gauche des libertaires de Podemos.
Alors, en Italie, est-ce que gauche et droite ne se rejoignent-elles pas sur le dossier européen ?
Ce n'est plus le cas. En dépit du énième retour de son fondateur Silvio Berlusconi, Forza Italia est en mauvaise posture et afin de sceller une alliance avec les régionaux populistes de la Ligue du Nord, le parti affiche un euroscepticisme de plus en plus marqué. Ainsi, à l'instar de Marine Le Pen peu avant le second tour de la présidentielle en France, Forza Italia défend l'instauration d'une double monnaie comportant introduction d'une nouvelle lire à l'usage interne. Quant au programme des Berlusconiens, c'est moins d'État, moins de taxes, moins d'immigration, plus de flexibilité du marché du travail et de meilleures relations avec la Russie. Une sorte de super François Fillonisme en face duquel se dresse le quasi-macronien Matteo Renzi qui vient de reprendre les rênes du Parti démocratique et ambitionne de retrouver sa fonction de président du Conseil aux prochaines élections. Pour Renzi, comme pour Macron, il s'agit en même temps de libéraliser l'économie et de protéger les individus des conséquences douloureuses de la mondialisation en leur permettant d'en être finalement les bénéficiaires par l'éducation, la formation et la culture. Et lui aussi veut une Europe conciliant plus d'intégration et de démocratie.
En Allemagne, Daniel, la grande coalition a rapproché la droite et la gauche.
Oui, mais en fait, depuis peu, elle s'éloigne de nouveau. Avec l'avènement à la tête du SPD de Martin Schulz, l'ancien président du Parlement européen, l'objectif est d'en finir avec cette grande coalition à l'occasion des élections de septembre prochain. D'où un programme très distancié de la politique d'Angela Merkel et notamment une remise en cause du rôle de l'Allemagne en Europe impliquant plus de solidarité financière avec les partenaires et un recentrage sur la consommation et l'investissement intérieur au détriment du tout export. Une position inédite qui conviendrait fort bien aux Français et qui tranche avec le très classique programme de baisse d'impôts de Mme Merkel.
Merci Daniel Vigneron de myeurope.info. À la semaine prochaine.
À bientôt Laurent.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition Accent d'Europe à retrouver demain dès 17h40, temps universel.